Bon, eh bien, bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour essayer de découvrir, ben, voilà, c'est marqué là-haut, hein, le professeur Cyclope. Donc, que tous ces auteurs qu'on voit là, je présente Hervé Tancrel, Bruno,
bonsoir.
Gwen de Bonneval, Cyril Pedrosa, Laurent Kessy, pas auteur mais si, scénariste, ouais, et Fabien Velman qu'on ne présente pas, dessinateur, scénariste, auteur à succès et tout. Comme les autres. Bon, non, voilà. Bon, donc, tous ces gens-là, tous ces auteurs ont essayé d'imaginer un projet d'une revue de, qui correspond peut-être mieux à l'esprit actuel. Le professeur Cyclope, une revue qu'on peut dire numérique. Gwen ?
Oui, c'est absolument ça.
Absolument, c'est ça. Alors, moi, j'ai qu'une question. On va commencer par celle-là. Comment ça a commencé ?
Alors, on est dans le thème des origines, hein, c'est ça ?
Ben oui, c'est pour ça.
Qu'est-ce que tu vas dire ?
Vas-y, Fabien.
Non, c'est toi.
Voilà, en, les origines, on ne sait jamais d'où ça commence exactement, mais je me souviens avoir une discussion avec Fabien à Nantes, justement, voilà, il y a 2 ans.
C'est donc bien la version officielle.
Dans le jardin d'un ami, Eric Sago, pour ne pas le nommer. Et en fait, mais les racines viennent d'avant. C'est, on s'intéresse au magazine. Enfin, pour ma part, je me suis occupé d'un magazine qui s'appelait Capsule Cosmique. D'autres auteurs ici présents font partie d'un syndicat, donc je fais partie, mais ils ont été fondateurs du syndicat, Fabien, Cyril et d'autres. Et donc on est quand même investi, au-delà de notre rôle d'auteur, on a envie d'être actif dans la vie de la bande dessinée en général. Et il se trouve que le numérique, c'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Et plutôt que de subir les choses, on a voulu prendre en main notre destin, voilà, en gros. Hein,
ça me semble
tu tweets, c'est ça ?
Ça me semble assez juste. Et on a assez vite été en contact avec le reste de l'équipe, là-bas, les bras cassés qui opinent du chef. Ça s'est passé d'ailleurs aux Utopiales, dans mon souvenir, la grande réunion fondatrice de l'envie de faire professeur Cyclope.
Il y a 2 ans.
Ouais. Cyril, c'est arrivé un peu parce qu'on cherchait une star facile d'approche. Et il se trouve que Cyril est à peu près les deux. Enfin, il est surtout facile d'approche. Et il avait sa tête dans le métro à Paris, donc ça nous impressionnait beaucoup, grâce au prix Fnac. Non, je ne vais pas aller trop dans cette direction. Et donc, on s'est assez vite mis d'accord sur le fait qu'on avait des envies communes, qui étaient une proposition qu'on fasse payer aux gens, ce qui est quand même important, c'est-à-dire que ça soit quand même un modèle économique viable, et pas forcément basé que sur du gratuit, enfin, on va reparler. Et qui puisse proposer aux gens de lire des choses qui seraient agréables à lire sur une tablette en particulier.
Et on voulait aussi le prendre sous l'angle du magazine, parce qu'effectivement, aujourd'hui, donner envie aux gens qui aiment la bande dessinée d'aller lire de la bande dessinée sur écran, soit ce sont des gens qui sont déjà un public, c'est déjà un public acquis, et qui vont voir des blogs de bande dessinée ou des tas de recherches qui ont été faites depuis des années, mais dont la régularité est variable et qui n'est pas une aventure collective avec une histoire, avec une proposition économique importante, on va dire. Et là, c'est l'idée de faire un collectif, c'était de pouvoir faire un magazine, d'avoir une production constante. Nous, on a opté pour faire un mensuel, en fait. On verra qu'il y a d'autres projets de magazine numérique. Ils ont opté pour d'autres stratégies. Et nous, on a voulu faire un magazine en se disant, des rendez-vous réguliers, proposer des auteurs variés, riches, et donner envie de aux gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette offre-là en numérique, mais aussi en kiosque, parce que la bande dessinée en kiosque aujourd'hui, c'est difficile. Et bien là, on se dit, le support de notre époque, c'est la tablette, c'est le numérique. On va faire quelque chose avec ça. Et on va inventer un modèle économique.
D'accord. Ça, mais une question plutôt simple, finalement, je dirais. Pourquoi ce nom de professeur Cyclope ? Est-ce que c'est en rapport avec la science-fiction, avec la littérature, le Cyclope de Ulysse ? D'où ça vient ?
En fait, on a quand même pas mal réfléchi à ça.
J'imagine, il y a eu un gros brainstorming.
On dirait pas, mais c'est un titre qui est extrêmement pensé.
Il a fallu du temps.
Non, mais en fait, l'œil, il y a la singularité de l'œil, il y a le côté mythologique, effectivement. Et l'œil, il symbolise aussi le regard de l'auteur. Et ça, c'était important pour nous. Et comme on s'oriente vers de la fiction, on a voulu inventer un personnage. Donc le professeur Cyclope, qu'on ne voit jamais, on ne voit que son œil. Enfin là, il n'y a pas son œil, mais on ne voit que son œil. Hervé ? Ah oui, d'accord. Donc on a voulu inventer un personnage, Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, notre magazine, on veut l'orienter vers de la fiction. Ça va être le cœur de la proposition. Voilà. Donc, on a inventé un personnage. Le professeur, c'est un classique en bande dessinée et ailleurs.
C'est le côté expérimental aussi.
Et c'est le côté
du magazine. C'est l'idée était aussi de se dire que le nom professeur, le mot professeur, amenait cette idée d'expérimentation, de labo. Et qui du coup de cette bande dessinée nouvelle, des formes numériques, de tout ce qu'on pouvait trouver de nouveau dans un magazine numérique, ce qu'il n'y a pas forcément dans un magazine papier, donc la vidéo, le son, toutes ces choses-là.
Voilà. Donc là Hervé, tu définis bien ce que va être ce magazine. Finalement, il va essayer de répondre à une demande. Vous allez aussi de créer quelque chose qui soit un nouvel espace où les auteurs pourront s'exprimer sur les différentes formes d'expression. Tu parles de vidéo, de son, et les auteurs pourront s'exprimer différemment de ce qu'ils font d'habitude sur le papier, même si des choses pourront se faire sur papier. Mais il y aura seulement des produits qui ne seront spécifiques au numérique.
En fait, je crois qu'on va avoir, enfin, l'expérience. Quand on montre le prototype, a l'air de montrer qu'on peut toucher deux types de publics. Il y a le public des gens qui aiment bien la bande dessinée, mais qui, a priori, se demandent s'ils vont aimer de la bande dessinée en ligne et numérique, parce qu'ils sont très attachés au papier, au livre, et ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais qui sont, en général, plutôt agréablement surpris par le mode de lecture qu'on propose, parce qu'il est assez novateur et assez intuitif. Et puis, il y a des gens qui vont être intéressés par le prototype parce qu'il est novateur technologiquement et qu'il y a des choses que personne n'avait jamais fait avant. Ces deux types de lectorat, on va les toucher aussi avec deux types de bandes dessinées. Il y a une bande dessinée qui sera bimédia, c'est-à-dire qu'on pourra la lire et sous une forme papier et sous une forme numérique. Ça sera juste deux modes de lecture différents du même objet. Et puis il y a des produits qui seront, le produit n'est peut-être pas le mot, des œuvres artistiques qui seront uniquement, oui je sais, qui seront uniquement numériques, qu'on ne pourra pas nous produire sous une forme papier du tout. Cette partie-là, elle nous intéresse aussi parce qu'actuellement, ce qui la rend difficile, c'est le fait qu'il n'y ait pas un marché, qu'il n'y a pas une économie qui permette qu'on puisse payer les auteurs pour faire ce travail.
Donc, Fabien, justement, je pense qu'on peut, peut-être présenter
ça
me semble assez juste ces choses-là. Ouais. Donc, on va arriver sur le sommaire du numéro 0.
C'est tellement impressionnant.
Donc ici, ce que vous voyez, c'est le numéro 0. C'est un numéro qui est pour l'instant resté assez confidentiel et qui nous a permis, qui nous permet encore d'ailleurs de démarcher, de faire plein de choses et de montrer un peu ce qu'on veut faire exactement. Donc dans ce numéro, on a en effet des bandes dessinées plus classiques et des bandes dessinées qui sont vraiment tournées vers le numérique, pensées pour le numérique. Donc il y a notamment un peu un des fers de lance du magazine qui est Opération Opéra de Vincent Perriot. Donc c'est cette image en noir et blanc qui prend pas mal de place sur le sommaire. Donc quand on va dessus, donc ça c'est une bande dessinée qui a été pensée par Vincent Perriot en scroll infini. Donc c'est vraiment une bande dessinée à lire.
Hervé, tu appelles comment scroll infini?
Alors le scroll à l'infini, non, c'est pas l'infini, d'ailleurs, c'est un scroll.
Oui, tu peux simplement un peu mieux le définir?
En fait, c'est la même chose que sur les blogs, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle canevas infini, ou page infinie, ou scrolling. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on voit ici, c'est une seule et unique page, que d'ailleurs Vincent nous présente presque au mètre. Quoi. Il dit, voilà, j'ai 25 mètres de BD à vous filer. Et avec des effets, comme on le voit ici, qui sont inspirés de méthodes d'animation. Ce qu'on voit ici, qui est une sorte d'illusion d'optique, qui donne l'impression que la caméra bouge, c'est en fait inspiré du layout, une technique du dessin animé qu'utilisait déjà Walt Disney en son temps, qui donnait l'impression, quand la caméra longeait le layout, que la caméra avait des mouvements, ce qui n'était pas le cas. En fait, la caméra restait juste au-dessus d'un seul et même dessin. Ce qu'a fait ici Vincent avec énormément de talent, c'est-à-dire qu'on a l'impression du coup de passer parfois d'une case à une autre, et puis de temps en temps, on est simplement dans une espèce de transition entre des images qui se fait de manière très fluide, très naturelle, et qui donne une impression d'immersion qui nous a complètement convaincus, en fait.
Et il y a une réelle narration, c'est pas du tout juste un truc contemplatif, il y a une vraie histoire à suivre, et du coup, voilà, on est vraiment dans une bande dessinée, mais légèrement différente, voilà.
Une lecture quand même, avec une lecture de haut en bas par rapport à la BD, qu'une lecture de droite à gauche quand même.
Alors ça, ce qui est bien, en fait, ça existe sur les blogs depuis très longtemps. Ce qui est bien dans ce qu'a fait Vincent, c'est par exemple là, on voit la technique du layout dont parlait Fabien. On passe d'une image à l'autre et ça reste de la narration. C'est le cadre qui fait qu'on est dans un temps différent. Et ces séquences-là sont assez impressionnantes. Sur les blogs, parfois, c'est plusieurs cases et c'est une bande dessinée classique, parfois c'est qu'une seule image, mais elles se succèdent l'une à l'autre. Et là, c'est une seule image qui fait un lien, mais qui est quand même narrative. Si on la mettait sans cadrer, ça serait une énorme image, quoi, tout simplement. Et ça, en fait, il a optimisé quelque chose qui existait déjà, mais il a su en tirer profit, finalement.
Et un des intérêts qu'on a, nous, quand on voit une proposition comme celle de Vincent ici, qui fait avec deux scénaristes, c'est qu'en fait, ça nous donne tous des idées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a voulu faire la revue, on savait que des choses pourraient se faire en numérique, mais on n'était pas forcément les mieux placés pour proposer des choses complètement innovantes. On savait juste qu'on devait le faire. L'image que j'ai souvent employée pour parler de notre attitude, c'est comme si on pourrait nous comparer à des moines copistes qui viennent d'entendre parler pour la première fois de Gutenberg et qui disent « bon, on ne sait pas le faire, mais on est obligé d'aller voir ce que c'est que ce truc parce que ça va changer nos vies, quoi. » Donc on n'est pas particulièrement ni technophile ni technophobe, on se dit juste « on ne peut pas passer à côté de cette révolution ». Par contre, il y a des gens comme Vincent ou comme Marion Montaigne, dont on va voir aussi un exemple de Turbomédia, qui eux se sont emparés de ça bien avant nous et qui du coup nous donnent encore plus envie de faire cette espèce de terrain de jeu que serait la revue. C'est-à-dire qu'on veut proposer à des auteurs plus talentueux que nous de se faire de la thune. Elle est là, l'idée. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit des auteurs qui voient le prototype et qui disent « ah ben oui, si ça, on peut le faire en scrolling, ça me donne une idée. » Je pense à Merwan, par exemple, un auteur qu'on a contacté, qui dit « ça me donne des idées de choses que je vais pouvoir faire. » Donc il y a une forme d'émulation qui nous intéresse énormément, en fait, dans l'idée d'un magazine fait par des auteurs.
Alors, un autre exemple de bande dessinée pensée pour le numérique, c'est une bande dessinée de Marion Montaigne, donc Zapoto. Marion Montaigne qui est en plus déjà est très présente sur internet par le biais de son blog tu mourras moins bête.
C'est professeur Moustache
un autre d'ailleurs
professeur.
Et qui nous a elle donc fait un épisode de Zapoto en ce qu'on appelle Turbo Média, qui a été créé par Balak, donc un auteur qui a travaillé vraiment sur la bande dessinée numérique aussi. Et donc là, c'est un principe de case à case, mais amélioré, si je puis dire. Alors, je me trompe, c'est ça. Attendez, hop, voilà. Donc là, on est vraiment sur un principe de... La lecture se fait de notre fait, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons le rythme, mais par contre, il y a de légers changements du case à case, quoi.
Et ça peut ressembler à parfois une mini animation. On est vraiment dans c'est effectivement le lecteur qui imprime le rythme. C'est pas un spectacle. Parfois, c'est-à-dire que c'est pas une animation qu'on aurait simplement à regarder. Ça reste encore de la lecture parce que c'est le lecteur qui va diriger, qui va donner le rythme. Il se trouve qu'il y a des gens. C'est une technique qui a été inventée par Balak et je pense à Malek aussi qui fait beaucoup de Turbomédia. Lui, il ajoute pas mal d'animation en plus, de l'animation classique. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'avoir de l'animation classique. Ça peut se faire de façon très simple comme ça. Et là, il y a des effets qui s'obtiennent parce qu'une image se superpose à l'autre, substitue à l'autre, plutôt. Et des effets qu'on n'aurait pas en papier, finalement. Et l'idée en allant vers un médium numérique et en faisant de la bande dessinée, c'est d'aller voir en quoi ça reste de la bande dessinée et en quoi il y a un support. Vous marrez des gags de Montaigne.
C'est en revoyant les conneries de Marion Montaigne que je me marre. C'est pas de toi, Gwen.
Non, c'est dur de parler si tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, en quoi c'est intéressant que ce soit du numérique et pas du papier, justement. Et les deux exemples qu'on a donnés dans le numéro 0, pour nous, c'est vrai qu'on n'est pas technophile au départ, mais on le devient. Moi, ça me donne envie de faire des tas de choses. Je crois que toi aussi, Cyril. Tiens, parle un peu.
J'ai pas grand-chose à ajouter, c'est extrêmement pertinent tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit apparaître en fait des nouvelles formes de langage. Alors, comme le disait Fabien, on n'est pas forcément les auteurs qui, jusqu'à présent, se sont le plus saisis de cet outil-là pour créer des nouveaux types de narration. Mais par contre, clairement, moi, je sens une vraie émulation, c'est-à-dire de recevoir les projets, de les voir et de découvrir d'autres façons de raconter une histoire, ça crée de l'envie. Et c'est un des aspects excitants de ce projet-là, c'est de se dire que ça va créer, susciter de l'émulation chez les auteurs et être un déclencheur en fait de création, comme a pu l'être la presse à d'autres époques en fait, en proposant d'autres sujets, d'autres thématiques. Bah là finalement c'est le support qui propose d'autres langages et puis ce langage-là va sûrement amener d'autres sujets, d'autres façons de les traiter.
Mais avec un point commun qui nous importe énormément, et c'est pour ça que c'est rassurant de savoir que Gwen était de la partie depuis le début, parce qu'il a une habitude de ce qu'est un magazine et ce qu'il faut mettre dedans pour que ça fonctionne, c'est qu'on veut que ça soit qualitatif et qu'il y ait des vraies histoires racontées. C'est-à-dire qu'il y a certaines propositions qui ont été faites par des gens qui sont très novateurs actuellement en ligne, qui étaient expérimentalement hyper excitantes, mais qui ne racontaient pas encore d'histoire. Or nous, à la fois on veut faire laboratoire, à la fois on veut quand même que ça soit un produit fini qui arrive entre les mains d'un lecteur. On ne veut pas que la personne ait l'impression d'entrer dans un labo, de voir des trucs en train de se faire vaguement, mais pas encore au point. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est que ce soit à la fois excitant en termes narratifs, en termes graphiques, et en termes d'expérimentation. Et on va pousser ça le plus loin possible. L'idée étant, là encore, de partir un peu du schéma actuel qu'on a, malheureusement, en moyenne avec nos éditeurs du moment, qui est de considérer, en fait, qu'on va mettre en ligne une version PDF de la bande dessinée qu'on a achetée en version papier. Et c'est vrai que lire une version PDF d'un bouquin qu'on a aimé, c'est pas hyper excitant. Si par contre on propose quelque chose avec une vraie innovation et le genre de choses qu'on a pu vous montrer avant, on a l'impression que ça peut déclencher une envie qui est un peu plus forte que simplement de se dire c'est une sous-version de la bande dessinée.
Tablette change quelque chose aussi.
Et la tablette et l'écran tactile changent quand même quelque chose. Et un autre truc qui change quand même et qu'on voit peut-être pas tout à fait en étant projeté comme ça, mais qui est très évident avec une tablette en main, c'est même si on n'est que amateur de très beaux dessins et pas du tout intéressé par l'aspect technique. Des aquarelles comme celles qui sont ici ou les lavis de gris que peut utiliser Guillaume Trouillard avec une autre DBD ou même les noirs, l'intensité de noir que Vincent Perriot a mis dans son scrolling ont une intensité qu'on pourrait difficilement obtenir avec une version imprimée. On s'en rend compte en voyant l'écran. On se dit, mais un noir comme ça, j'en vois jamais d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir un vrai intérêt à avoir un écran rétro-lumineux. Alors qu'avant, on le voyait comme un moins, en se disant, bah oui, le voir sur un écran, c'est chiant, c'est pas comme le vrai papier. En fait, voilà, bah, l'exemple de Guillaume Trouillard. Donc là, ça donnera ce que ça donnera, parce que c'est projeté sur écran, mais il y a des scènes de nuit qui suivent, qui sont juste sublimes à voir sur un écran de tablette. Ça, on le voit quand même assez bien. Mais c'est encore mieux sur un écran tablette.
Ouais, je confirme.
Parce qu'il y a une... Je ne sais pas comment dire. Quand on aime le dessin, moi je suis scénariste et je reste un fan de dessin. Ce genre de pages, je les ai redécouvertes en les voyant sur un écran lumineux. Donc ça ouvre aussi des perspectives pour amateurs de beaux dessins. Donc là encore, on voudrait ne pas opposer genre les tenants du livre papier qui seraient un peu des sortes de gardiens du temple et puis des gens hyper technophiles qui seraient que à la pointe de la modernité. Il y a quelque chose à faire au milieu et c'est ce vers quoi on essaie d'aller.
Ouais, j'ai un truc à dire et une question aussi. En fait, j'ai rien à voir avec Professeur Cyclope. Hein.
Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ?
J'ai été invité, je pense, parce que je m'occupe, je travaille avec d'autres sur une autre revue numérique, mais pas de bande dessinée, mais de nouvelles de science-fiction, qui s'appelle Angle Mort et qu'on a lancé il y a 2 ans. Et je me souviens, vous êtes venu nous demander il y a 2 ans comment ça se passait, comment on avait lancé le truc, tout ça. Et vous réfléchissiez à des formats. Mmh. Et quelques mois après, vous aviez fait Hate Comics, je crois.
Non, en fait, c'était en même temps. Fabien, Cyril faisait partie d'Hate Comics, donc je vais leur laisser parler. Parce que c'était pas mon cas, mais.
Alors, du coup, nous, le principe, c'est qu'on publie, des numéros trimestriels. Donc voilà, on est parfois en retard parce que c'est un peu compliqué, mais. On essaye d'avoir un rendez-vous avec 4 nouvelles à chaque fois. Et le format de publication, c'est du freemium. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, il y a une des 4 nouvelles qui est mise en ligne gratuitement. Donc au bout du 3 mois, toutes les nouvelles sont en ligne. Et si on achète le numéro complet qui est à 2,99, je crois, on peut avoir toutes les nouvelles dès que le numéro est sorti, plus des interviews, des bonus, voilà. Donc du coup, ma question, c'est... C'est quoi votre modèle économique à vous ? Ça sera comment, Professeur Cyclope, quoi ?
Bon, alors, en fait, le modèle économique, il est inventé.
Vous avez de l'argent.
Non. En fait, on ne part pas sabre clair en mettant en ligne quelque chose qui ne serait que pour les abonnés particuliers. On a réfléchi à d'autres formes. Il y a, par exemple, on est en train de finaliser un contrat, c'est pas fait, donc je touche du bois, mais c'est en train d'être fait, avec une chaîne de télé française qui coproduirait le magazine. Donc ça, c'est un des premiers piliers de la fondation économique du magazine. L'autre pilier, c'est on va aussi aller voir des entreprises et leur vendre nos abonnements. Donc ça permet d'avoir des abonnements, une assise plus confortable si on arrive à trouver des entreprises qui achètent en masse ou collectivement un certain nombre d'abonnements. Et il y a évidemment, et surtout sur le long terme, et nos interlocuteurs privilégiés, les abonnés particuliers. mais on ne peut pas lancer un magazine aujourd'hui numérique alors qu'il n'y a pas d'usage encore réel en se basant que sur la probabilité, la promesse de futurs abonnés. On est obligé de démarrer en faisant un mensuel, de payer les gens correctement, en ayant d'autres modèles économiques pour pouvoir le faire tout simplement correctement pour tout le monde dans de bonnes conditions. Du coup, le modèle avec cette chaîne de télé qu'on ne citera pas tout de suite, mais c'est bien dommage, c'est ils auront pendant un mois sur leur site une version gratuite que tout le monde pourra aller voir. La différence avec l'abonné, c'est que l'abonné, lui, pourra télécharger l'intégralité du numéro et qu'il aura 30% de contenu supplémentaire par rapport à la version gratuite de cette chaîne de télé
qu'on ne peut pas citer.
Et il pourra aussi lire le magazine sur différents supports, notamment donc sur tablette, mais aussi sur ordinateur, sur PC, sur écran normal, quoi, on peut dire, et sur smartphone, mais sans doute pas tout, parce qu'évidemment, certaines choses ne seront difficilement lisibles sur smartphone par rapport à une tablette ou à un écran chez soi.
Oui, parce qu'il y a une problématique spécifique à la bande dessinée en ligne que n'a pas, par exemple, le film du tout. C'est les phylactères, ce qui change tout. Parce qu'en fait, on peut regarder un film sur un smartphone en le regardant de très très près. Moi, je pense, au début, j'y croyais pas du tout quand on me parlait de regarder un film sur un smartphone, mais je le vois constamment dans le TGV, donc je suis bien obligé d'admettre que ça se fait. Parce que le son, on l'a dans l'oreille, on regarde l'image de près, c'est bon. Par contre, une des BD qu'on a montrée là sur un très très petit écran, il y a un moment donné où la lecture, elle devient quand même vraiment pénible. Donc, peut-être que pour le cas à cas, ça fonctionnera assez bien en smartphone. Et que les autres, par contre, on les gardera pour des écrans un peu plus grands, de manière à ce qu'on n'ait pas une impression d'avoir un truc un peu cheap, quoi.
Non, juste un truc à ajouter sur le modèle économique tel que l'a décrit Gwen. Le principe général, en tout cas, dans ce qui est du partenariat avec cette chaîne de télévision qu'on ne peut pas nommer ou d'autres, parce qu'il y a d'autres partenaires, d'autres partenariats
qu'on
est
en train de construire. Parce qu'on n'a pas signé. Parce que c'est pas signé.
Mais le principe général, en fait, c'est de construire une économie sur de la cession de droits de diffusion. C'est-à-dire que d'un côté, on va proposer à des lecteurs individuels d'acheter le magazine, de pouvoir le consulter, et dans l'autre, on va aller dans des espaces où on va proposer la diffusion du magazine, l'accès à ce magazine en échange de droits de diffusion. Comme d'une certaine façon, on pourrait produire un produit audiovisuel et qu'on céderait à une chaîne de télé ou à du câble, etc. etc. C'est le même principe économique. Après, qu'ils
aient des transports aériens.
Voilà, dans les transports aériens, dans l'hôtellerie ou dans la presse, etc. etc., etc.
Sachant aussi, pour revenir à ce que disait Gwen sur le fait qu'on table aussi, bien entendu, sur des lecteurs individuels, c'est qu'on a quand même l'illustre exemple de Thomas Kaden qui a montré que c'était possible, parce que ça a été le premier avec les autres gens à prouver qu'il y avait possibilité de convaincre des gens de s'abonner en ligne pour lire une BD. Bon, dans le cas des autres gens, c'était quotidien, avec pas mal de pages par jour. Il a quand même réussi à fidéliser 1500 ou 2000 abonnés, ce qui était assez extraordinaire, parce que ça partait de rien.
Selon la police, 2000. Ouais.
Voilà, donc... Nous, pour la première année d'exploitation, on espère qu'on aura peut-être 1000 lecteurs individuels qui vont s'abonner. On va voir. Si c'est plus, super. Si c'est moins, je comprends pas.
En plus, on est obligé de citer Thomas Kaden à chaque fois.
Ouais, c'est contractuel.
Sinon, on a des problèmes.
Toujours Thomas, qu'on admire demeurant énormément.
Vous avez une idée du prix, par exemple, auquel vous allez proposer le numéro ?
Bon, c'est pas encore gravé dans le marbre, donc. On ne peut pas en parler maintenant, mais oui, on a des idées, nous. Mais...
On ne peut pas dire le nom. La conversation va devenir de plus en plus floue.
C'est Cthulhu, quoi, la chaîne de télé. C'est...
Non, mais ça sera moins de 5 euros le numéro, mais on ne l'a pas encore validé totalement. Après, l'abonnement, évidemment, ça sera dégressif. Et on essaiera aussi d'avoir le maximum d'accès aux coulisses de la création pour les abonnés et que de les chouchouter, en fait. Parce que finalement, sur la longueur et le rapport réel qu'on a, c'est avec des gens... Qui font la démarche de s'abonner en leur nom propre, et donc ça, c'est important d'apporter de vrais plus pour eux, quoi.
Après, il y a des gens, nous on l'a vu dans l'exemple d'Angle Mort, il y a des gens qui achètent pour soutenir vraiment parce qu'ils trouvent ça bien et que c'est, la somme est modique et que voilà, on va aider ces gens-là qui se bougent pour faire des trucs. C'est une part non négligeable, je pense. Il y a un autre effet, je pense, c'est que contrairement à nous. Nous, on fait de la prose, donc voilà, c'est du texte. C'est plus sur des liseuses. Et peu de gens sont équipés en liseuses, alors que les tablettes sont un peu plus popularisées, j'ai l'impression. Et la BD se prête plus Enfin, sur une idée, c'est pas possible. C'est donc et donc voilà, je pense que c'est sans doute un avantage.
Mais disons, ça commence parce que les tablettes, tout le monde en a pas quand même. C'est ça, ça reste un. Alors, disons, en fait, on est à la charnière. C'est-à-dire qu'il y a encore un an, je me rappelle de Noël dernier, il y a plein d'articles qui disaient, on pensait que ça allait être le moment où la tablette allait exploser, puis non. Puis il y a des modèles qui se sont cassés la gueule parce qu'ils attendaient la fameuse explosion des tablettes. On a l'impression que 2013 va être. Bon, on en est toujours à faire des paris, hein, mais on pense que 2013 va être déjà quand même plus axé à des tablettes achetées plus largement. On en est actuellement à, je crois, 3 millions de tablettes en France, ce qui est déjà un marché quand même. Et qui plus est, ça se développe. Il y a des concurrents à l'iPad qui sont en train d'apparaître, ce qui d'ailleurs nous pose des tas de questions techniques, hein, parce que ça veut dire qu'il faut que ça soit lisible aussi via Android, etc.
Le Kindle Fire.
Voilà. Après, la liseuse avait d'autres avantages qui moi me plaisaient bien dans l'esprit avant, mais qui sont pas du tout adaptés à la BD, à ce qu'on veut faire, qui sont les aspects économiques de parce que ça consomme moins d'électricité, par exemple, une liseuse. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément le réflexe d'en acheter autant qu'une tablette.
Même en noir et blanc, moi j'ai essayé, tu peux lire des PDF, mais tu ne peux pas lire une BD. Les formats sont trop petits, tu zooms, c'est galère. Enfin, c'est vraiment pas un truc de BD.
C'est pas très adapté à la BD, non.
Alors, une des conséquences de ça, en tout cas, même si c'est un marché en croissance, la tablette, il est quand même malgré tout limité, comme le disait Fabien. Et du coup, c'est vrai que pour les abonnés, le magazine, il est construit, pensé intégralement pour la tablette. Maintenant, pour les abonnés, nous, ce qu'on va essayer de leur offrir, c'est une possibilité d'accéder en ligne via un PC et d'avoir le maximum de contenu, parce qu'on veut pas non plus se limiter à la fois en termes de marché, mais aussi parce qu'on voudrait pouvoir toucher tout simplement le plus possible de lecteurs et offrir un espace de lecture le plus vaste possible. Ben voilà, donc
oui, c'est éthique même. C'est...
Mais non, vous êtes, disons que pour toucher le maximum de gens, vous allez être obligé d'avoir, comment dire, un format de lecture qui s'adapte au maximum de supports possibles.
Alors oui et non, c'est-à-dire que, c'est un résumé de ce qu'on est en train de dire, c'est que oui, il faut que ça soit lisible sur différents, il faut que ça soit interopérable, pour reprendre le terme technique, et en même temps, on avait l'impression que ça serait une erreur que ça soit tellement interopérable que ça a sa place nulle part et que ça n'a pas de forme. On a décidé que ça serait essentiellement sur tablette, à la fois pour l'écran tactile et à la fois pour le format, ce qui permet quand même au moins de dire aux dessinateurs, ben voilà, on vous demande des pages en moyenne, ça sera type roman graphique ou type demi-page, de manière à ce que, comme on l'a vu dans les exemples qu'on a donnés, on n'ait pas en tant que lecteur la question de se dire, est-ce que je dois zoomer dans la page, est-ce que je dois me déplacer dans les cases, c'est offert, on sait déjà que c'est du case à case ou du page à page, etc. Et si on était trop à se dire, bon, ça sera un petit peu smartphone, un petit peu PC, un peu tablette, on risquait d'avoir un truc qui était mou, quoi. On voudrait essentiellement qu'en termes qualitatifs, la tablette soit vraiment le lieu idéal de lecture. Après, par contre, si on se coupe des gens qui n'ont pas de tablette, c'est dommage, parce qu'il y a toute une partie du lecteur à BD qui n'en a pas. Nous, on fait partie des gens qui avons acheté une tablette pour faire le projet, donc on ne peut pas dire qu'on est au départ, on était fous de ça. Mais quand on commence à s'y faire et quand on voit ce que ça peut donner, oui, ça devient très excitant, ça c'est sûr.
Une question plus artistique, comment je parlais de... Pour les dessinateurs et pour les auteurs qui vont vouloir travailler pour Professeur Cyclope, est-ce que ça va, comment dire, changer quelque chose dans leur mode de concevoir les BD, de concevoir leur travail, de concevoir la manière de dessiner, la manière de faire les couleurs
Pour Bruno.
Monsieur technique.
Pour tout dire, en fait, c'est beaucoup plus galère de bosser, d'un point de vue technique, de bosser pour du numérique que pour une version papier d'un livre. Là, en ce qui nous concerne, pour les auteurs, en gros, pour leur simplifier le travail, on leur fournira une sorte de didacticiel qui leur offre des possibilités, diverses possibilités de création pour les plus perdus d'entre eux. Après, on reste ouvert à d'autres propositions auxquelles on n'aura pas pensé, comme celle de Vincent Perriot qu'on a vu tout à l'heure en scroll à l'infini. La principale difficulté, comme le disait Fabien, c'est le rapport au phylactère et puis à la taille des typographies. Quoi. C'est vrai que ça, on n'a pas encore résolu tous les problèmes, mais on verra en fonction de ce que nous enverront les auteurs, les différents auteurs. On verra ça au cas par cas, en fait, parce que je pense qu'il y en aura certains qui seront au taquet sur le numérique et puis qui penseront leur page sans qu'on ait à vraiment faire beaucoup de suivi derrière. A contrario, il y en aura aussi toute une partie qui travailleront plus ou moins à l'ancienne et qui feront de la BD, ce qu'on pourrait appeler de la BD numérisée, c'est-à-dire en gros des planches conçues pour du papier mais qui seront transposées dans le magazine. Et auquel cas, typiquement comme les pages d'Hervé Bourris, Et donc, avec ces auteurs-là, il y aura peut-être un suivi, enfin, sans doute un suivi plus important à faire.
Et en même temps, c'est adapté directement. Le simple fait d'avoir une tablette et d'avoir entre les mains une page qui n'est pas coupée, c'est comme si on avait un livre, c'est du numérique, mais on a un objet entre les mains qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus agréable, même quand c'est que de la BD numérisée. Ça apporte un confort par rapport à une lecture sur ordinateur de bureau, par exemple. Donc finalement, cet exemple-là ne va pas comporter de gros problèmes techniques, puisque finalement...
Si, potentiellement en termes de...
De bulles de...
Non, de, bon, après, des problèmes purement hyper techniques, dans le sens à quel format enregistrer ces fichiers, etc. Voilà. Bon,
les problèmes techniques, c'est un des... C'est un des trucs du professeur Cyclope. Mais il y a un autre problème aussi qui arrive pour nous, c'est aussi en termes de rétribution, de paiement, c'est de savoir comment est-ce qu'on va payer entre une page classique comme celle-ci que vous voyez. Pour nous, c'est simple, on connaît à peu près combien ça vaut une page comme ça, combien de temps ça représente en termes de travail pour un auteur. On est plus embêté quand il s'agit de pages où tout d'un coup on va avoir du case à case avec une animation dans chaque case, par exemple, avec ce qu'on appelle le GIF, quoi, ou ce genre de choses. Là, parfois, une case en GIF, ça peut demander 2 ou 3 jours. On s'en rend compte parce que j'en parle parce qu'on a eu cet exemple-là aujourd'hui.
2 ou 3 jours, je ne sais pas, mais
certaines. Voilà.
On parle quand c'est une illustration poussée, etc. Peut-être pas les cases, mais oui. Ça peut demander beaucoup de boulot.
Ça demande du boulot, ça peut être une journée sur une case, par exemple. Là, c'est plus du tout les mêmes problématiques que celles de la bande dessinée. À moins, bon, y a sûrement des auteurs qui mettent une journée sur une case.
Ouais, j'en connais, ouais.
Mais je voudrais aborder quelque chose d'autre. Bon, votre professeur Cyclope, c'est un magazine finalement. C'est conçu comme un magazine. Donc il y aura de la bande dessinée, mais il n'y a pas que de la BD dans un magazine. Il peut y avoir du rédactionnel, il peut y avoir des reportages, il peut y avoir quelque chose qui ne concerne pas du tout le dessin. Moi, je me souviens quand je lisais Tintin, il y avait des pages sur le sport, il y avait des choses. Est-ce que le complément de la bande dessinée, vous allez vous attaquer pour quelque chose dans ce style-là, quoi ?
En fait, pas tant que ça. On veut quand même rester autour du dessin la plupart du temps. Ouais. Ou en tout cas, quand on aborde un sujet particulier, ça va être par le biais du dessin ou qui a quand même un rapport avec nous. Parce que, enfin, avec ce qu'on fait, avec notre cœur de métier. Ce qu'il faut dire, et là je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a d'autres projets de revues numériques, dont une qui va faire du reportage dessiné, qui s'appelle la revue dessinée. On s'est très vite dit qu'on allait se séparer un petit peu, aller vers aggraver notre cas. Nous, on allait plus vers la fiction et on faisait un mensuel. Et eux, ils se sont dit qu'ils allaient aller plus vers le reportage, vers le réel. Et ils vont aller vers un rythme trimestriel, un peu comme 21. Ils vont plus vers le reportage. Et nous, on avait envie d'aller plus vers la fiction. Donc, on va avoir du rédactionnel. On va s'intéresser à des choses autres que la bande dessinée. Mais ça sera plus à la marge. On a en revanche un endroit, un espace dans le professeur Cyclope qui s'appelle l'œil du Cyclope, où là on va tenter des choses justement, on va s'intéresser, par exemple là il y a Philippe Dupuis qui va faire quelque chose sur l'art, et là tu pourras en parler mieux que moi par exemple.
Oui, c'est un des exemples de collaboration qui apparaissent un peu spontanément quand on parle de ce genre de prototype et qu'on va voir des auteurs qu'on apprécie. Donc on était allé voir Dupuis et Berberian et on les a vus séparément parce qu'ils voulaient faire des projets séparés. Et Philippe Dupuis, il se trouve qu'en fait, plus ça va, plus il oriente sa carrière vers l'art contemporain et vers des installations, vers des concerts en live. Il a fait encore récemment, avec Moriarty à la Bastille, des concerts dessinés qui ont très bien marché. Et en fait, ça l'intéresse beaucoup, mais sauf que les débouchés de ça, ça sera pendant le concert, ça sera pendant l'exposition, mais il n'y a pas de trace de la chose. Quelque part, si on arrivait, nous, à concevoir économiquement et artistiquement avec lui un e-book qui synthétiserait une partie de ce qu'il aura fait en collaboration avec des lieux d'art contemporain ou, ça ne veut pas dire que de l'art contemporain, mais des choses qui parleront de l'art en général, pourquoi pas mixer ensemble des vidéos, des petites animations, du dessin en live, des concerts. Il y a aussi des techniques qui permettent de capter un dessin en train de se faire sur une tablette, ce qui est un truc assez beau à voir quand on aime aussi le dessin. Le dessin se crée sous nos yeux. Autant de techniques que lui a envie d'expérimenter. Donc là, on trouve par exemple, ce qui serait l'idéal pour nous, c'est un terrain d'entente entre ce qu'on attend des auteurs et ce qu'eux attendaient justement des éditeurs et que les éditeurs leur ont pas tellement proposé de faire jusqu'à présent. De fait, d'un point de vue strictement technique, ce qu'on fait nous, c'est qu'on a monté une boîte d'édition. Professeur Cyclope est le premier produit que fait la boîte qu'on a montée qui s'appelle Silly Comics, qui sera éditeur numérique. Et donc ça nous permettra entre autres, là on le fait avec, on l'a fait avec une sorte de teasing, mais Philippe Dupuis pourrait le faire tout à fait dans son projet, c'est de montrer, là filmé par Tanguy Jossic, je crois, d'excellents dessinateurs à la plastique irréprochable en train de dessiner chacun à sa manière, à fumer comme des pompiers pour oublier leur sort, mais à savoir dessinateur de BD. Dans le cas présent, c'était sur une série que je vais co-scénariser avec Gwen dans la revue, des histoires de robots géants gaulliens sur fond de guerre d'Algérie. Donc ce qu'on présente pompeusement comme la rencontre improbable entre HBO et Goldorak. Alors je vous laisse voir si ça vous parle ou pas, mais nous on aime bien l'idée. Ça, c'était les recherches que commençaient à faire à ce moment-là Cyril et Hervé, qui ont été accompagnés par Bruno par la suite. Derrière, on reconnaît...
Gwen buvait seulement de la cachaça, c'est tout.
Voilà, c'est ça. C'était sa façon de les encourager. Et on s'est rendu compte, par exemple, que juste ce petit teasing, il a eu un effet auprès de pas mal de lecteurs en ligne quand on l'a mis sur Facebook, parce que, là encore, c'est le plaisir de voir des gens dessiner. Moi, je sais que quand je venais en festival de bande dessinée, essentiellement, quand je faisais la file d'attente, c'était pour voir le dessin se faire sous mes yeux. Je trouve qu'il y a quelque chose qui reste quand même assez magique à ça. On n'est pas obligé de rester que sur le fait de dessiner, de montrer des gens en train de dessiner, mais là, la logique, pour que ce soit dans Professeur Cyclope, c'est qu'on parle du dessin. Donc il y a quand même une unité un peu de genre dans ce qu'on a envie de faire. Et ce projet devrait être fait au final par une douzaine de dessinateurs. Chacun ferait un épisode tous les mois d'une vingtaine de pages. Et c'est un projet assez passionnant parce que du coup, moi, ça m'oblige à essayer d'écrire d'une manière différente aussi pour qu'il y ait un épisode tous les mois. Quoi.
C'est hyper intéressant, pas seulement, je trouve, pour le fait qu'on voit des gens dessiner, mais ça rejoint l'idée de revues, de magazines, d'esprit éditorial et de gens qui travaillent ensemble. Et dans toutes les revues qui ont marché, j'ai l'impression qu'il y avait, au-delà même des revues qu'on connaît chez nous, Pilote, Tintin, c'était un peu plus artificiel, mais on faisait semblant qu'il y ait une unité, on montrait les coulisses. Gaston, c'était les coulisses du journal de Spirou. Dans les Marvel Comics, il y avait Stan Lee qui écrivait une chronique. Enfin, on faisait croire qu'il y avait un esprit dans les revues. Et je pose des questions toujours, moi. Est-ce qu'il y a une politique éditoriale édictée ou c'est juste vos envies, vos goûts, ou est-ce qu'il y a des trucs que vous interdisez, il y a des trucs que vous privilégiez dans la fiction, ça on a compris, mais après...
Oui, après c'est vrai que ça... ça rejoint nos goûts principalement. On sait qu'on s'adresse aux ados et aux adultes. Il y a parfois du contenu vraiment plus adulte, donc on a des fois du mal à dire que c'est ado-adulte, mais c'est parce qu'il y a des choses qui. Notamment une rubrique de Fabien qui s'appelle L'herbier sauvage.
Voilà. En fait, qu'on a placé dans la. Qui est ici, on va peut-être pas montrer trop longtemps le dessin en très très gros plan, au cas où il y aurait des très jeunes dans la salle.
On tenait
à ce qu'il y ait des rubriques adultes.
C'est mignon.
Non, ça reste mignon, c'est juste une orgie médiévale.
Le montre à mes enfants tous les soirs avant de se... Je ne vois pas le problème.
Et ça, par exemple, ça pourrait être un gif. Ça sera un projet de livre illustré qui permettra, là encore, il y a un côté très collectif quand même dans pas mal de projets. C'est pas que ça, mais il y a aussi ça. Chacune des petites nouvelles érotiques sera illustrée par un dessinateur. Donc il y aura des gens comme Hugues Micole, comme David Prudhomme, comme Laureline Mathiosi ici, Karine Bernadou, enfin plein de super dessinateurs ou dessinatrices. Quoi.
Et après, sur le choix, sur le contenu, c'est lié à nos goûts personnels. On peut pas dire le contraire, effectivement. Et on pense que de toute façon, c'est important d'avoir des affinités et justement pour créer ce collectif, qu'il y ait du répondant, même entre les auteurs, pas seulement les auteurs fondateurs, mais entre les auteurs contributeurs, pour qu'il y ait même de nouveaux projets qui peuvent naître ensemble, qu'il y ait de la vie, tu citais des magazines qui ont fonctionné, mais en tout cas au moins au niveau de la qualité et de la vie, c'est que c'est des gens qui pouvaient aussi avoir des raisons d'être ensemble sur ce support-là. Et nous, c'est ce qu'on essaye de créer. Donc forcément, il y a quelque chose de subjectif. Mais je crois qu'une ligne éditoriale se vit, elle ne se décrète pas, donc il faut qu'on l'assume totalement.
Ouais, il y a un esprit de bande, je pense que c'est ça qui est
réjouissant. Elle est ouverte, hein, il y a plein de jeunes auteurs, il y a de nouvelles choses, c'est pas juste les cinq copains qui font le truc, qui vont s'amuser ensemble.
Un truc qui est important à préciser, ça m'amène à deux réflexions. Pour revenir à 8 comics ou 8 comics qu'on avait commencé à faire avec Cyril entre autres et puis les frères Jouvray, enfin tous les gens avec qui on l'a fait, avec Alfred, etc. On s'est quand même rendu compte en le faisant, donc c'était une initiative qui datait à peu près de l'époque où on avait commencé à en parler, mais qui n'était pas liée à Professeur Cyclope, c'était une autre initiative. On voulait voir ce que ça donnait de mettre des BD en ligne gratuitement et de voir si ça avait un impact ou pas sur les ventes de la BD derrière. Si c'était si grave que ça d'être lu en ligne gratuitement. Il se trouve que si on prend l'exemple de Portugal, de Cyril, je ne crois pas qu'il y ait eu un impact très négatif, si j'en crois les ruptures de stock à Noël l'année dernière. Dans mon cas, c'était moins évident parce que c'était un truc un peu plus indépendant avec Jason, mais ça a été une bonne vente quand même. Par contre, là où moi j'y ai vu un bémol, c'est qu'il y avait un côté bande, mais sans unité éditoriale. C'est-à-dire que chacun y mettait des trucs. On était tous copains, mais je ne peux pas dire qu'il y avait toujours un lien hyper net, graphiquement, narrativement, entre les BD qu'on mettait ensemble sur Red Comics, à part qu'on était potes, quoi. Et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas quelque chose de plus dirigiste, à la limite, au point que là, la méthode à laquelle on voudrait adhérer, c'est même presque dans l'autre sens, c'est qu'il va y avoir une rédaction qui n'est pas les cinq ici, mais en fait les trois là-bas, Gwen, Bruno et Hervé, qui seront, eux, chargés de choisir ce qui va être dans la revue. Or, ça peut les amener à refuser des projets que j'apporterai ou que Cyril apportera, ou peut-être même qu'ensemble, on décidera de ne pas convenir si c'est vos sales projets à vous. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un truc où on met nos projets, nous, en disant, voilà, c'est notre affaire, on fait ça dans notre coin. Il faut qu'il y ait une unité. Moi, je sais que je fais des BD qui vont être sans doute trop mainstream, pulp, dans une direction qui ne sera pas celle de Professeur Cyclope. Il y aura des points communs, mais ce ne sera peut-être pas adapté. Ben, ça ne me pose pas de problème. Je les mettrai ailleurs. Mais simplement, le seul truc, c'est que je proposerai d'abord mes récits en priorité à Professeur Cyclope. Et j'ai l'impression qu'avec cette espèce de garde-fou, enfin les trois connards là, j'espère, parce que je leur fais confiance et que je trouve qu'ils sont à peu près doués en moyenne, que ça peut donner une unité qui a plutôt de la gueule. Et pour moi, le prototype, ça allait carrément dans cette direction-là, quoi.
Sinon, on peut aussi parler de la diffusion, de quand ça va naître et tout ça, mais...
C'est à vous de nous le dire, parce que c'est quand même vous qui maîtrisez le projet. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner...
Oui, allez, vas-y, réponds-nous.
Est-ce que tu peux nous donner une échéance de diffusion?
En fait, on va sans doute montrer une grande partie du numéro 1 pendant le festival d'Angoulême, mais il ne sera pas encore en diffusion. Le numéro 1, accessible pour tous, ce sera au mois de mars. Ça serait parce que... Hein, ça sera voilà, au mois de mars, à rythme mensuel. Comme on le
Donc on prend rendez-vous.
Voilà. Et si vous êtes à Angoulême, on pourra montrer. Là, on montre le numéro 0, mais le numéro 1 sera sans doute très avancé à Angoulême. Et là, on va faire des rencontres publiques, on est à la programmation, etc. Donc il y aura moyen d'en voir plus à ce moment-là aussi, quoi.
Le côté conditionnel qu'on met parfois, parce qu'on aime bien toucher du bois et pas être sûr et tout, c'est lié au fait que. Dans les faits, actuellement, on sait qu'on va pouvoir le faire. Simplement, il y a encore plein de choses qui sont en train de se fabriquer au moment où, les jours se passent. On a des nouveaux rendez-vous avec des gens, des nouveaux investisseurs, des nouveaux partenaires dits B2B, ce qu'expliquait Gwen, c'est-à-dire des entreprises qui vont acheter des abonnements en quantité. Et plus on en aura, plus on sera cool pour le faire. Là, on sait qu'on peut le faire, mais qu'on va éventuellement se serrer un peu la ceinture. Ce qui veut dire au passage, et là je fais mon VRP de base, que si par hasard vous avez des contacts avec des grosses boîtes du style SNCF, du style Novotel, du style Mercure, ce qu'on pense nous à des choses comme ça, on s'est dit par exemple, est-ce que ce serait pas logique de demander à une chaîne d'hôtel, moi quand je vais dans un hôtel, le premier réflexe que j'ai c'est je demande le Wi-Fi et je me connecte et je regarde mes mails, bah, si on m'offre à ce moment-là une revue, après tout, moi je suis gagnant, je suis content d'avoir eu ça, comme on m'a offert un bouquet satellite quand je suis dans ma chambre d'hôtel et que je regarde la télé. Donc il y a une logique avec un public qui s'emmerde, entre guillemets, je suis dans mon hôtel, je m'emmerde, pourquoi pas avoir une revue à lire. Pour l'instant, on a des très bons contacts, on n'en a jamais assez parce que ça prend énormément de temps, parce qu'il y a des fois des gens qui disent bah, je trouve ça bien, mais moi je ne m'y connais pas bien en BD, ou c'est pas moi qu'il faudrait contacter. Donc on est toujours, 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 et on le sera encore longtemps, en recherche de gens qui connaissent des contacts dans des boîtes comme ça. Si ça vous intéresse, si vous connaissez des gens, vous n'hésitez pas à nous contacter. Voilà.
On vous donnera l'adresse 06. De Fabien. Hein.
Ouais.
Alors, mon 06. Alors, ma chambre au Novotel, c'est...
Il y a un blog du professeur Cyclope avec la possibilité de nous envoyer un mail sur le Gmail du prof Cyclope. Donc, au contraire.
Aussi.
Et un Facebook aussi, d'ailleurs, c'est vrai.
Mais cela dit, on a eu des très bonnes réactions qui nous rendent quand même assez enthousiastes sur la suite, là.
Si vous voulez bien, on va peut-être te demander si dans le public, bon, vu tout ce qui a été présenté, c'est quand même très riche, très passionnant, s'il y a des questions, des envies. Bon, attends, je vais faire le verre.
Bonjour. Bonsoir, c'est vrai que ça a l'air vraiment très passionnant. Vous parlez bien, très bien des tablettes. Vous n'avez pas de partenariat avec eux ?
Il y a un partenariat envisagé avec un type de tablette que nous ne pourrons pas citer pour le moment. Non, mais tout le problème, il est là, en fait. C'est qu'on est constamment, nous, en train d'avoir des touches. Il faut conclure. C'est qu'il y en a qui sont plus que des touches, dans le sens où on a déjà des lettres d'engagement, des choses comme ça, mais tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas signé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les cite pas, d'ailleurs. C'est qu'il y a des choses très avancées, il y a des logiques. Ben, ce que vous dites là, ça nous paraît effectivement très sensé. Le problème, il est dans la temporalité de chaque entreprise. C'est que nous, on voudrait démarrer là maintenant, en particulier les auteurs avec qui on veut bosser pour que ça soit prêt en mars. On voudrait les payer tout de suite, mais il y a des problèmes de trésorerie, quoi, simplement. Donc la mise en marche, elle est un peu compliquée pour ça. C'est que nous, on a une temporalité qui est là tout de suite. On voudrait s'y mettre parce qu'on est hyper excités.
Et du coup, le feu vert, ça sera peut-être que dans 15 jours, mais c'est pas...
Voilà, c'est dans 15 jours. Mais par contre, il y a des boîtes avec lesquelles ils nous disent c'est super, on en reparle dans 2 mois. Et tout est dans cette espèce de différentiel là. Donc oui, avec les tablettes, il y a une piste qui est intéressante, mais...
On va en parler l'année prochaine, quoi.
Voilà. Justement, pour le choix des tablettes, vous avez pris de Android, vous avez fait un choix spécial de système.
Ça serait sur toute tablette. Il va falloir qu'on soit au point techniquement pour que ça soit sur toute tablette. Actuellement, clairement, c'est plutôt l'iPad qui reste majoritairement acheté. Hein, mais... Alors d'ailleurs, ça nous pose...
Mais l'idée, c'est pas d'être que
mais sur... Voilà, c'est pas par principe qu'on veut être que sur iPad. Ça va nous poser par contre des questions peut-être liées au fait qu'on veut faire une revue pour adultes. Et c'est pour ça d'ailleurs, enfin, ados et adultes, c'est pour ça qu'on a voulu que dans le prototype, il y ait la rubrique érotique pour qu'on montre ce qu'on voulait faire. C'est vrai que vis-à-vis d'Apple, ça va poser un certain nombre de questions par rapport à l'App Store. On n'est pas trop certain de comment on pourra être là-dessus, si on peut y être. Mais c'est un vrai choix. On pense, à tort ou à raison, que en tant que lecteur adulte qui avons acheté une tablette, on n'a pas forcément envie de lire un contenu qui soit que un contenu tout public. Perso, je pense. Remettons-nous à l'époque de Metal Hurlant. Metal Hurlant n'aurait pas pu passer sur l'App Store. Ça pose quand même des questions. Donc notre vision de la chose, c'est un pari, mais qui est pas simple. Hein, c'est de se dire, il y a suffisamment un public, les fameux CSP+, pétés de thunes, qui ont une tablette, mais qui veulent un contenu adulte. Qui sont prêts à payer pour ça, à la limite comme Canal Plus en son temps, quoi. Pas avec le même argument du journal du Hard, quoique à la limite on peut. Et on n'a pas le foot, surtout, même si Cyril était censé justement s'occuper de la rubrique sport. Et puis...
On peut demander à Bouzard de venir nous faire des pages sur le foot, voilà, mais Bouzard, il le fait déjà pour SoFoot, donc voilà, ça va être dur.
Mais voilà, la question du positionnement, c'est là qu'elle peut avoir un impact qui n'est pas anodin du tout, parce qu'on sait bien que l'App Store, c'est un booster assez important de vente. Donc il faut qu'on arrive à pousser les gens à comprendre que c'est pas que sur l'App Store qu'on peut l'avoir sur d'autres tablettes.
On sait jamais, Apple peut évoluer.
Et Apple peut évoluer, bien entendu, quand ils verront la qualité de notre travail.
Et pour les images, justement, donc, à part le contenu adulte, est-ce que vous pouvez, au niveau technologie, arriver à des images stéréo ou la 3D pour avoir une image
Sans les lunettes rouges et vertes, tu veux dire, parce que c'est pas d'actualité immédiate, parce que si je vois déjà la tête de Bruno quand on parle de la taille des phylactères. Non, mais en fait, il y a déjà un millier de questions techniques qu'on maîtrise pas encore, mais on sait à qui s'adresser pour essayer de le maîtriser. Mais voilà, pour donner un exemple,
on s'interdit rien.
Pour donner un exemple de stéréo, honnêtement, à un moment donné, on va tout envisager, mais il y a deux choses. Il y a à la fois la difficulté technique et il y a le coût. Si ça coûte trop cher à mettre en place pour un effet qui au début ne concerne pas grand monde, on ne pourra pas le faire les premières années, c'est sûr. Si par contre on se rend compte que narrativement parlant et graphiquement parlant, il y a plein d'auteurs qui nous le demandent et que ça peut être vraiment génial, il faudra qu'on l'envisage dans le budget de chaque année.
Ça va évoluer au fur et à mesure aussi.
Oui, puis ça, nous on va aller le chercher, mais il y a aussi des auteurs qui vont venir vers nous avec des projets qui vont nous paraître incroyables, en espérant en effet que, et techniquement et financièrement, on pourra soutenir ce type de projet auquel on n'aura pas forcément pensé nous. Voilà.
Et si la personne qui arrive avec un projet vraiment génial et convaincant, peut-être aussi qu'on pourra le produire presque en parallèle de la revue et du coup trouver des fonds pour ce truc-là. Et une technologie pour ce projet-là, et on le réintègre dans la revue. C'est-à-dire qu'en fait, un projet vraiment épatant, on trouvera aussi peut-être des moyens de le financer qui ne seront pas seulement ceux de la revue en tant que tel.
Ce qu'on va essayer de faire avec Philippe Dupuis, a priori.
Ce qu'on fera avec Philippe Dupuis, parce que son projet en tant que tel, ce que disait Hervé tout à l'heure, comment on va quantifier combien ça va coûter la captation d'un concert dessiné. Nous, on sait combien valent 5 pages de BD, mais une captation de concert dessiné, on ne sait pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une nouvelle... Là encore, de toute façon, tout est inventé. C'est vrai aussi des contrats vis-à-vis des auteurs. On va aussi essayer d'inventer quelque chose qui est basé sur le numérique. On va demander aux gens le droit de diffuser numériquement une BD, ce qui n'est pas la même logique. Même c'est un changement de paradigme avec ce qu'on signe actuellement en BD classique. Actuellement, on cède nos droits pour la BD papier. Et il se trouve qu'en même temps, on cède les droits numériques. Nous, on aimerait inverser la chose en disant d'abord, on demande les droits numériques aux auteurs. Donc, tout est inventé, de A à Z.
Je crois qu'il y a un monsieur là-bas avec une chemise à carreaux. Non, vous, monsieur, avec le micro.
À côté.
J'avais une question et une remarque. Alors, ma question, c'est comment ça marche pour l'instant technologiquement le magazine, votre numéro zéro, c'est un site web, c'est comment est-ce que vous l'avez fait? Et pour la remarque, dans la petite vidéo, vous parlez beaucoup de bande dessinée numérique, et dans la petite vidéo, on voit tous les dessinateurs qui travaillent sur papier.
C'est honteux.
C'est surprenant.
Ah ben, la diffusion peut être numérique et on peut travailler sur papier. C'est pas incompatible.
Il y a des auteurs qui vont nous proposer des choses faites en infographie directement, mais c'est
Vincent
là, ça dépend
Perriot,
vraiment des auteurs.
Vincent Perriot, c'est que sur tablette, il l'a fait sur tablette. Oui, mais c'est pas... La diffusion et le mode de création, c'est deux sujets différents, en fait. Mais... Rien n'est... Qu'est-ce que tu dis ? Pardon ?
Le support du numéro 0, d'abord, ce n'est pas nous qui l'avons fait. On a fait appel à un développeur, on a défini nos besoins.
Il l'a fait en HTML5 pour répondre...
Et c'est une web app. Parce qu'on voulait que ce soit sur multi-support, même si... En fait, à l'usage, c'est là qu'on s'est rendu compte que la tablette était vraiment incontournable, que c'était 10 000 fois plus fort sur une tablette que sur PC. Mais pour répondre à votre question, c'est une web app, le support.
Bon, bah, écoutez, il va falloir conclure maintenant, parce qu'on nous le demande. Donc, bah, on va souhaiter longue vie au professeur Cyclope. Hein, c'était une très très longue vie et puis
j'ai une bonne naissance.
Non mais une longue vie, une bonne naissance et puis surtout un énorme succès.
Ça me paraît déjà acquis, non?
Non.
Merci.
Ah voilà. Merci à vous.